Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Jusqu'à 9h, c'est le 7. Le 7.
88.3,
c'est fac. Ça part ici.
On est de retour dans le 7, il est 7h17. Je suis en direct avec mon invitée du jour, la professeure Karine Prémont. Bonjour Madame Prémont.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, ensemble, on va discuter un petit peu du procès en fait, de l'ancien président américain Donald Trump. Donc je tiens à le rappeler, en ce moment, Donald Trump est en procès pour fraude commerciale civile. Avant, comme on le sait très bien, il a vécu une procédure de destitution, notamment pour l'assaut sur le Capitole. J'avais une première question, c'est comment se fait-il que l'ancien président soit continuellement sous le radar de la justice américaine sans vraiment en vivre les conséquences? Parce qu'avec ce qu'on peut lire, ce dernier va toujours être candidat pour les élections de 2024.
Ben en fait, tant qu'il n'est pas formellement accusé d'un crime fédéral, il peut effectivement se présenter à la présidence. Alors, ça ne l'empêche pas de faire campagne, ça ne l'empêche pas aussi d'utiliser ces accusations-là pour dire « ben c'est une chasse aux sorcières, c'est mes ennemis politiques qui m'en veulent, qui veulent m'empêcher de me présenter ». Donc, ça lui sert en même temps d'argument. Mais tant qu'il n'est pas formellement accusé, trouvé coupable de crime fédéral, il n'y a rien dans la Constitution, dans les règles électorales qui l'empêche de se présenter. Il en profite abondamment, en fait. Mm-hmm.
Donc, ça veut dire que s'il est coupable pour ce procès de fraude commerciale, il pourra toujours se présenter pour 2024?
Oui, parce que ce n'est pas, une offense fédérale. Alors, c'est pas criminel. Ben, c'est criminel, mais c'est pas lié à une offense fédérale, pour répéter ce que j'ai dit. Mais c'est, en même temps, c'est là qu'on va voir si ses partisans le soutiennent encore, à quel point il peut être trouvé coupable de différentes accusations et maintenir sa base. Et ce que l'histoire nous a démontré jusqu'à maintenant, c'est qu'il est assez bon pour entretenir sa base, peu importe ce qu'il fait. Mais est-ce que ce sera suffisant pour l'emporter? Ça, c'est différent. C'est pour ça que le procès sur la fraude électorale, par exemple en Géorgie, est plus importante en termes de conséquences sur la campagne.
Mais selon vous, de quelle manière ce procès pourrait-il justement influencer la perception du public à l'égard de sa candidature éventuelle aux élections de 2024?
Celui qui est en train de se passer maintenant, celui de New York? Je ne suis pas certaine que ça va influencer la perception des gens, parce que comme je le disais tantôt, les gens qui soutiennent Donald Trump depuis le début lui donnent un soutien inconditionnel et en fait partagent son avis selon lequel c'est une vendetta politique que ces procès-là, ça vient de la Maison-Blanche, etc. Tout ça est faux évidemment, mais Trump a tellement bien réussi à faire entrer ça dans la tête de ses électeurs qu'ils le soutiennent envers et contre tout. Donald Trump est très polarisant, on le sait. Alors, je ne suis pas certaine que des gens qui, jusqu'à maintenant, ne l'ont pas trouvé intéressant ou n'ont pas voulu voter pour lui, soudainement se mettraient à voter pour lui. Mais l'inverse est aussi vrai. Il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, rendus à ce stade-ci, qui ne l'ont pas déjà lâché, qui, là, soudainement, le lâcheraient en raison de ses fraudes fiscales. Il faut se rappeler que Trump s'était déjà vanté de ne pas payer d'impôts, s'était déjà vanté d'utiliser tous les mécanismes financiers à sa disposition pour s'enrichir. Et il y avait de ses électeurs qui disaient « ça, c'est un gars intelligent parce qu'il est capable de profiter du système d'une certaine façon. » Parce qu'on le sait, Trump se présente souvent comme étant quelqu'un qui va déjouer le système, qui va réussir à contourner les règles qu'il trouve aberrantes. Alors, ça fait partie un peu de son personnage. Et les gens qui l'appuient souvent considèrent que c'est une bonne chose, en fait, de ne pas respecter les règles parce que ça vient d'un gouvernement corrompu, entre guillemets, selon leur point de vue.
Mais justement, en parlant de tout ça, quelles seraient en fait un petit peu les leçons politiques et institutionnelles qu'on devrait tirer en fait de ce procès et puis évidemment des autres choses pour lesquelles il est accusé afin de renforcer le système électoral et démocratique des États-Unis?
Là, vous me posez une très bonne question. Il y a des spécialistes qui se penchent là-dessus depuis très longtemps. Le problème, c'est que le système électoral est inscrit dans la Constitution. Alors forcément, tout changement requerrait changement constitutionnel. Et les Américains n'aiment pas ça plus que les Canadiens s'attaquer à la Constitution. C'est très difficile de modifier la Constitution. Les mécanismes électoraux sont devenus aussi très partisans. Ce sont devenus des outils dans la lutte partisane. Alors, ce serait très difficile de convaincre tout le monde que les changements sont nécessaires, parce que ça profite à des gens. Forcément, ça profite surtout aux républicains, les règles actuelles, parce qu'en termes de démographie, les républicains n'ont pas suffisamment d'électeurs pour remporter les élections traditionnelles. Si on veut de façon traditionnelle, alors ils utilisent différents outils pour essayer de maximiser leurs gains. Tant qu'on reste dans la légalité, dans les mesures acceptables, il n'y a pas de souci, mais Trump tire un petit peu, pousse un petit peu l'enveloppe, comme on dit en anglais. Mais les leçons seraient aussi à tirer du côté du financement des campagnes électorales aussi. On sait que c'est un financement qui est surtout privé, un financement qui n'est pas toujours très transparent. Ben, peut-être que ça aiderait d'avoir de plus grandes règles de transparence, mais encore une fois, ceux à qui ça profite, ben, n'auront pas intérêt à collaborer pour faire ces changements-là. Oui, alors, bien honnêtement, là, à court terme, je ne vois pas bien quel changement pourrait être apporté à ce système électoral-là.
Sans parler vraiment de constitution, est-ce que selon vous, on devrait être plus dur avec nos candidats et élus? Parce qu'à savoir que ben, Donald Trump, il est un pro en ce moment. On l'a accusé d'avoir, en gros, comment dire, mené les personnes à faire la sauce sur le Capitole. Est-ce qu'on devrait être plus dur avec ces candidats-là?
Ben, assurément, dans la mesure où, quand on a des gens comme ça qui tentent de détruire le système même pour lequel ils se présentent, il y a un problème. C'est la même chose, d'ailleurs, pour certains élus du Sénat ou de la Chambre des représentants qui se font élire pour critiquer le système, pour l'empêcher de fonctionner. Ils sont là pour créer le chaos d'une certaine façon, puis ensuite dire, ben, regardez comment j'avais raison, ça fonctionne pas, les institutions, faut les changer, alors que c'est eux-mêmes qui sont en train d'en pervertir un peu les fonctions. Là, je pense notamment à Marjorie Taylor Greene, mais aussi à des types comme Matt Gaetz qui a contribué dernièrement à la démission du speaker de la Chambre des représentants. Donc, ce sont des gens qui, sans avoir de casier judiciaire nécessairement, dans le cas de Marjorie Taylor Greene, par exemple, mais ce sont des gens qui souhaitent détruire le système de l'intérieur d'une certaine façon. Et ça pose problème. Et dans le cas de Trump, en plus de ça, on ajoute un comportement qui est, en termes de légalité, toujours un peu limite. Là, avant même d'être président, il avait déjà subi plusieurs procès. Il était déjà renommé pour ne pas payer ses factures, pour exploiter des travailleurs vulnérables, etc. Alors, ces candidats-là, en principe, devraient être rejetés, mais comme le mode de fonctionnement du système électoral permet, pendant les primaires, de désigner des candidats sans égard à ce genre de choses-là, ben, ça fait en sorte qu'ils peuvent ensuite devenir président, puis il est un peu trop tard.
Là. Oui, certainement.
Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est un peu complexe. Là,
c'est certain. La politique américaine a l'air vraiment très, très complexe sur ce point-là. Et est-ce que vous avez déjà un petit peu une idée des prévisions des élections de 2024? Est-ce que, on l'a dit, Donald Trump, il a quand même beaucoup de monde derrière lui. On l'a vu ces dernières années, c'est certain. Est-ce que vous avez un peu des prévisions sur l'issue en fait de ces élections-là? Est-ce qu'on reparle d'une réélection de Donald Trump ou alors vraiment d'une continuité pour Joe Biden?
Ben, vous comprendrez que mes prédictions sont pas très bonnes généralement, notamment en 2016, alors je me risque pas trop à en faire, surtout alors que les primaires sont même pas commencées, puis que justement on connaît pas encore l'issue des procès qui pourraient, par effet d'accumulation, là peut-être changer la donne, notamment concernant l'éligibilité de Donald Trump. Mais j'ai appris justement en 2016 à ne plus avoir de certitude sur ce qui est possible et pas possible durant les élections. Je pense que, étant donné le système électoral, le système du collège électoral où les élections présidentielles se gagnent par État, en fait, les sondages nationaux sont pas très intéressants, nous disent pas grand-chose sur la répartition des votes. Mais je pense que dans un système comme ça, Donald Trump a des chances tout à fait réalistes de l'emporter en 2024 si rien ne change, s'il garde son soutien puis s'il n'est pas en prison. Mais Joe Biden aussi, mais en termes de pourcentage ou de probabilité, là, je ne me risquerais pas à faire des positions, surtout que ce serait public, alors je me le ferais reprocher certainement.
Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais écoutez, merci beaucoup Madame Prémont, c'était très intéressant de parler de tout ça avec vous, et puis merci encore de vous être levée tôt pour discuter de Donald Trump avec moi.
Mais ça me fait plaisir, merci beaucoup.
Ben merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Et quant à nous, on va repartir un petit peu en musique et on va revenir un peu après pour discuter de l'actualité de Sherbrooke et de la politique internationale. Donc je vous laisse un peu avec notre sélection musicale et on se retrouve juste après.